Voici la description d'une caricature anglaise de James Gillray du 1er janvier 1803 à propos des relations entre la France et la Grande-Bretagne. D'un côté, vous avez un citoyen français qui ressemble à Bonaparte et qui dit « Madame, permettez-moi de témoigner de ma profonde estime envers votre charmante personne et de sceller sur vos lèvres divines mon attachement éternel. » Réponse de cette dame, appelée Britannia, « Monsieur, vous êtes un gentleman vraiment bien élevé. Bien que vous me fassiez rougir, vous embrassez si délicatement que je ne puis rien vous refuser, même si j'étais certaine que vous me tromperiez encore. »
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Depuis le mois d'avril 1792, la France est en guerre. D'abord contre la Prusse et l'Autriche, et puis à partir du début du mois de janvier 1793, avec la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas et certains princes italiens. Cette guerre pèse lourd, évidemment, dans l'histoire de la Révolution française, mais à la suite du coup d'État de Bonaparte, en novembre 1799, il est envisagé de faire une véritable paix. La victoire de Bonaparte à Marengo avait poussé l'Empire d'Autriche à accepter une paix, la paix de Lunéville, signée le 9 février 1801, qui avait été également signée par le royaume de Naples et la Russie du tsar Paul Ier. Résultat, en 1801, il ne reste plus comme adversaire que la Grande-Bretagne. Mais celle-ci elle-même est touchée par cette guerre de bientôt 10 ans. Son économie est en difficulté, sa marine règne certes sur les mers, mais son armée de terre est incapable de véritablement vaincre l'armée française. De plus, le 13 mars 1801, le très francophobe William Pitt est renversé par les communes et il doit remettre sa démission. Il est remplacé par un autre membre du parti Tory, du parti conservateur, Henry Addington, qui nomme au Foreign Office Robert Jenkinson. Cette nouvelle équipe gouvernementale est prête à négocier avec la France de Bonaparte un traité de paix. Reste à savoir, évidemment, les termes de ce traité de paix. D'autant plus qu'en France, il y a indéniablement de la part de Bonaparte et de la part tout simplement du peuple français la volonté également d'aboutir à la paix, d'autant plus que l'expédition d'Égypte se termine mal pour le corps expéditionnaire français qui était resté sur place. Donc les négociations s'ouvrent à partir du 1er octobre 1801. Les discussions vont durer plusieurs mois et vont aboutir à un traité, le 25 mars 1802, qui est signé à l'hôtel de ville d'Amiens. Quelles en sont les conditions? D'abord, elles concernent les domaines coloniaux. Le traité stipule que la France va bénéficier de la restitution des possessions qui avaient été prises par la marine britannique. C'est le cas, par exemple, de la Martinique ou de Sainte-Lucie. Par contre, l'île de la Trinité et Ceylan sont laissées aux Britanniques. En Afrique, la colonie du Cap retourne à la République batave, c'est-à-dire aux Pays-Bas. On refixe des frontières entre la Guyane d'une part et le Brésil portugais de l'autre. Et puis, on délimite des zones de pêche à Terre-Neuve et du côté de Saint-Pierre et Miquelon. D'autre part, la Grande-Bretagne s'engage à évacuer ses troupes stationnées à Malte, qui devrait devenir une île indépendante sous couvert de l'ordre de Malte. En contrepartie, la France s'engage d'une part à évacuer les troupes qui stationnent dans le royaume de Naples, mais également dans la République batave, c'est-à-dire en Hollande. Par contre, il y a un aspect qui n'est pas véritablement abordé par la question du traité d'Amiens, c'est la possession de la Belgique et de la rive gauche du Rhin. C'est plein de sous-entendus parce que la France de Bonaparte y est attachée, alors que la Grande-Bretagne se méfie de cet agrandissement en Allemagne et dans le Nord de la République française. Donc, il y a un traité signé. Reste à savoir dans quel état d'esprit, véritablement, il va être appliqué par les deux signataires. Il y a un premier aspect qui crée des tensions entre Paris et Londres, c'est la reprise en main des possessions des Antilles par la République française. En effet, la France est théoriquement maîtresse des Antilles, de la Guadeloupe, mais également d'une partie de Haïti, mais il y a la question qui se pose de la reprise en main légale. Or, il y a des troubles, en particulier entre les colons et les esclaves qui font fonctionner une bonne partie de l'économie locale. Or, il est vrai que Bonaparte envoie à Saint-Domingue, à la Guadeloupe, des troupes pour, justement, tout comme à la Martinique, eh bien, rétablir l'ordre français. Ce qui fait qu'en fait, l'esclavage qui avait été théoriquement aboli en 1794, à vrai dire, n'avait jamais véritablement disparu, et on revient à la situation ante 1794. Et la Grande-Bretagne, ce n'est pas tant d'ailleurs la question de l'esclavage qui l'inquiète quelque peu, mais de revoir une présence maritime française véritablement importante dans la zone des Antilles. Ce qui fait que, alors que la paix est signée, eh bien, il y a des actes de corsaires britanniques qui commencent ici et là à attaquer des navires français qui font la navette entre les îles des Antilles, voire même entre la métropole et les îles des Antilles. Par ailleurs, il y a le problème de l'évacuation des troupes. Vous vous souvenez que dans le traité signé le 25 mars 1802, était prévue l'évacuation de Malte, d'une part, et l'évacuation des garnisons françaises en Hollande et dans la région napolitaine. Or, en fait, ni la Grande-Bretagne ni la France ne respectent les clauses. Les armées françaises sont toujours présentes en Hollande, elles sont toujours présentes dans l'Italie du Sud, qui plus est, Bonaparte va poursuivre des annexions dans la région du Piémont et mène une politique active en Allemagne. Et de leur part, les Britanniques n'enlèvent pas un seul soldat de la garnison qu'ils ont à Malte. Ce qui fait qu'en fait, un élément clé du traité n'est pas respecté. Et véritablement, il y a là une difficulté. Pourquoi ? Parce que, en fait, à Paris et à Londres, il y a quand même beaucoup de non-dits. À Londres, il est évident que la paix est certes très bien accueillie, mais l'idée que la puissance maritime de la France puisse à nouveau se développer inquiète une partie des élites politiques britanniques. Et ils ne voudraient pas voir un concurrent colonial et économique dans les mers du monde. D'autre part, en France, il y a un autre argument qui pèse lourd dans la pensée des élites françaises, c'est la question des frontières naturelles. En effet, depuis 1793, il y a chez les révolutionnaires, et sans doute aussi chez Bonaparte, l'idée qu'il faut respecter les frontières naturelles, les Alpes, les Pyrénées, mais le Rhin. Or, la Grande-Bretagne et la France sont indéniablement en désaccord là-dessus, puisque la France veut faire du Rhin une frontière naturelle sur tout le long du fleuve, en Allemagne et jusque dans la République batave, jusqu'aux Pays-Bas. Or, la Grande-Bretagne s'inquiète de cette ambition parce que cela mettrait des ports comme Anvers, comme Rotterdam, comme Amsterdam lui-même, eh bien, à portée de main des Français et pourrait être comme un pistolet pointé sur la Grande-Bretagne. Donc, on le voit bien, il y a véritablement des non-dits, des mauvaises volontés, même si sans doute, il est indéniable aussi que l'opinion publique française et britannique a accueilli avec joie la question de la paix rétablie en 1802. Le retour de William Pitt, le 15 mai 1804, va consacrer une rupture qui a déjà eu lieu depuis un an. En effet, au printemps 1803, les deux puissances en arrivent à nouveau à un état de guerre. Et le fait de revoir le francophobe William Pitt revenir au poste de Premier ministre augure effectivement une guerre qui s'annonce dans la durée. La Grande-Bretagne va organiser la troisième coalition et va déclarer la guerre à la France. Elle va soutenir les conspirations contre le Premier Consul, en particulier celle de Georges Cadoudal, et va favoriser l'idée d'un retour de la monarchie des Bourbons en France. De son côté, Napoléon Bonaparte va devenir empereur, et face à l'échec de la tentative de débarquement en Angleterre, eh bien, il va se retourner contre les alliés de la Grande-Bretagne dans cette nouvelle coalition, la troisième coalition, en particulier la Russie et l'Autriche. Cela va l'amener jusqu'à Austerlitz. Mais évidemment, ce que personne ne sait encore, c'est que nous sommes face à une guerre qui va durer 10 ans et où les deux puissances vont véritablement jamais trouver une solution d'entente et le différend ne sera définitivement réglé que dans la plaine de Waterloo.